Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, petites et grandes oreilles buissonnières. Buissonnière et peut-être aussi musicienne, mélomane et mélodieuse, le tympan en colimaçon à l'affût des moindres petites notes, des moindres petits sons, voire même des ultrasons, pour peut-être même en faire de jolies chansons. Êtes-vous une oreille chercheuse, crapahuteuse, aventureuse, escaladant le do le mi, sautillant du sol aussi, prenant la clé de fa pour ouvrir un monde de samba? Ou êtes-vous plutôt du genre oreille fine bouche, plus heureuse de savourer un concert bien sucré dans son vieux canapé, plutôt que de jouer les chefs cuistots entre violon, triangle, flûte et saxo? Mais peut-être aujourd'hui, vous surprendrez-vous à vouloir tenter la grande aventure de la musique en étant les vrais créateurs plutôt que les seuls auditeurs. Aujourd'hui, en effet, Philippe Blin, musicien et professeur de musique, sera en notre compagnie pour nous parler musique et création afin de répondre à la question « La musique, s'apprend-elle ?»
Ben pour moi, la musique déjà, ça s'apprend forcément, sans compter le chant, parce que on va prendre, mettons, le piano, déjà direct, tu vas pas savoir la note que c'est si quelqu'un te l'a pas dit.
Moi, chez moi, j'ai une guitare. Moi, je peux dire que ça s'apprend pas tout seul. C'est pas du premier coup qu'on va arriver à faire Christophe Maé ou...
Ben, moi, la musique, elle peut s'apprendre et aussi, on peut avoir un don pour la musique.
Moi, je connais une personne. Il avait pris 2-3 cours pour la guitare. Et après, il y arrivait directement. Il avait un don. Et du coup, il l'a appris à son frère. Et depuis, ils jouent ensemble.
Et sa maman, elle en joue justement du piano et ma camarade faisait... Elle touchait des notes, bizarrement. Et en fait, après, ça donnait une mélodie. Et du coup, à chaque fois, on faisait cette mélodie.
Bah, moi, je joue un instrument, un petit instrument africain. Et je prends pas de cours, j'essaye d'apprendre toute seule. Et j'apprends beaucoup de chansons et mon papa... il a jamais pris de cours de chant de sa vie et il chante très très bien.
Comme par exemple les musiques en chant que t'écoutes à la radio, au fur et à mesure que tu les entends, tu peux les reproduire.
Et moi je sais pas, je dis ça au hasard, mais il y a peut-être un chanteur, à un moment il était sous la douche et il a chanté une chanson et cette chanson ça a devenu une chanson très célèbre, hein.
Mais c'est si on n'a pas envie d'en faire aussi, c'est comme plein de choses dans la vie. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on n'y arrive pas. Donc si on n'a pas envie de faire de la musique, on n'aime pas, on n'y arrivera pas.
Tes parents, ils te forcent à apprendre de la musique et que tu n'aimes pas, c'est une corvée. Et si tu choisis un instrument que tu aimes et que tu aimes la musique, tu vas te dire « Ouah, c'est super, j'adore ça, je joue peut-être pas très bien, mais je pense qu'après je jouerai mieux. » Moi, je pense que le chant, ça s'apprend pas. Le chant, c'est aussi de la musique. Et quand on essaye d'apprendre un instrument tout seul, on va pas dire qu'on apprend, on va plutôt dire que c'est du plaisir.
Moi, je pense que la musique, elle s'apprend un peu, mais pas tout. Parce que la musique, c'est un peu ce qu'on ressent. Parce qu'il y a des gens, le plus souvent, des fois, les gens chantent à suivant ce qu'ils ressentent. Si quelqu'un est content, il va chanter une chanson comme quoi il est content.
Parce qu'il y a des chansons qui viennent de nous, qui viennent de nos sentiments. Donc parfois, elles ne peuvent pas s'apprendre, ces chansons-là.
Comme une de mes camarades l'a dit, ça vient du cœur, c'est l'un des émotions. Et suivant les émotions, on écrit des chansons ou des mélodies.
Moi, la musique, je sais que quand j'étais petite, je voulais devenir chanteuse. Alors je me disais, je voudrais chanter en anglais. Mais bon, je savais pas encore l'anglais, donc chanter du charabia. Et puis souvent, sous la douche, ma sœur, elle était dans la pièce à côté, elle m'entendait. Puis dès que je sortais de la douche, elle me disait, pourquoi tu chantes ? Je fais, parce que j'aime bien la musique. Et donc en fait, la musique, ça peut être une passion, un passe-temps, quelque chose qu'on n'aime pas. Et quand on ne sait pas chanter, on dit « Oh, je ne sais pas chanter, je chante faux, je chante mal, c'est pas beau, c'est trop grave, c'est trop aigu. » Bah, on peut chanter aigu, grave, mais c'est pas grave, c'est pour toi.
Voici l'histoire de Tom Bonjo, un copain qui s'appelle Bonjo. Mais qui, de plus, est un banjo. Chez Tom, on est instrument de père en fils. Son papa est un piano, sa maman un violon. Bien entendu, ils voulaient que leur fils devienne musicien. Il envoie donc faire ses études au conservatoire. Où Tom travaille bien, mais ses professeurs ne supportaient pas sa voix. Ses parents inquiets font venir le médecin pour examiner sa gorge. Il lui gratte les cordes. Mais sa voix reste toujours pareille. Finalement, Tom renonce à faire carrière de musicien et s'engage dans une usine de conserve. Tom devient tout triste. Le bruit des machines lui gonfle les chevilles et il attrape des boutons à sa peau. Un jour, il décide d'aller passer un week-end à la campagne. Quand le réveil sonne, il saute du lit. Met ses cordes de dimanche, descend les escaliers 4 par 4 et dévale la rue qui mène à la gare. Là-bas, déjà son train démarre. Il court et court à perdre haleine le long du quai et se hisse dans le dernier wagon. Juste à temps car voici un tunnel. Tom écoute la musique du train et regarde passer les villes. Enfin, il se trouve dans le vert de la campagne. Alors il change de ton, saute du train et sur son ventre rond, il roule, 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 s'arrête au milieu d'une grande forêt. Et là, il se sent tellement bien qu'il se lève en chantant. Il invente sur place et sur lui-même une petite mélodie qui fait comme ça. Un moustique qui était en train de piquer Tom entend cette mélodie et ça lui plaît tellement qu'il se met à fredonner. Un jet, le voyant passer, fait « C'est une chanson pour les oiseaux, dit-il. » Et il siffle à son tour. Le jet se perche sur la branche d'un sapin et le sapin dit « C'est une chanson pour les arbres où j'ai pas de feuilles. » Et se met à tanguer, chanter. Quand l'arbre côté entend, se met à chanter aussi. Puis l'arbre côté, l'arbre côté. L'arbre côté, bientôt la forêt toute entière chante. La forêt voisine entend chanter à travers la vallée. Et elle aussi se met à chanter. Puis la forêt voisine, forêt voisine. On n'a rien de temps. Le pays tout entier chante la même chanson. Très vite, les vagues de l'océan soufflent la mélodie au pays voisin qu'ils chantent. Puis le pays voisin, à la fin du week-end, le monde entier chante. Quand Tom revient de la campagne, tout le monde est dans la rue en train de chanter, de crier « Tom Banjo for president, Tom Banjo for king, we want the banjo that made the world sing. Nous voulons Tom Banjo pour président, pour roi. » Mais Tom répond « Pas moi. La seule chose que j'aurais aimé, c'est pouvoir jouer avec le grand orchestre. » Et c'est ainsi que si vous passez par la ville de Tom, vous pouvez aller l'écouter dans la salle de concert où il joue tous les samedis soirs à la grande joie de ses parents. sont toujours au premier rang.
Bonjour Philippe Blin.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Tom Banjo de Steve Waring. Alors que pensez-vous de ce petit bonhomme qui fait chanter les arbres, les oiseaux, les océans, les moineaux, alors même qu'au conservatoire on lui dit « mon petit monsieur, adieu, au revoir ». Bref, dites-nous donc, la musique s'apprend-elle ?
Oui, la musique s'apprend.
Ah, déjà, c'est une donnée.
Oui, je crois que quand on entend Steve Waring, on a vraiment cette impression que la musique, elle est partout. Et que la musique, ben, c'est d'abord des oreilles, et puis des vibrations qu'on ressent. C'est le principal moyen qu'on a d'apprécier la musique, c'est quand même les oreilles.
Les oreilles buissonnières.
Buissonnières, bien sûr.
Évidemment.
Et donc je crois que la première chose vraiment à identifier, ce sont les oreilles. C'est-à-dire que si on écoute de la musique, si on a la chance d'être dans une famille qui entend de la musique, si, ou qui en joue, ça va bien mieux pour rentrer dans la musique. Des fois, il suffit juste de penser qu'on a des oreilles. On se dit, tiens, j'ai des oreilles, qu'est-ce qu'elles entendent, pour s'apercevoir que la musique est partout, comme dans ce qu'on vient d'entendre de Steve Waring, où tout d'un coup, le petit bonhomme, il va partout, et puis il s'aperçoit que la musique, elle est absolument partout, en fait. Si on se met à écouter, on l'entend partout. Alors, pour apprendre la musique, je pense qu'il faut d'abord passer par là, c'est-à-dire l'écoute. Et puis ensuite... essayer de voir tout ce qui nous permet de faire de la musique, c'est-à-dire qui nous permet de faire du son, de gratter, de souffler, de taper, de frotter, de tout ce qui nous permet de avec nos mains, avec la bouche, avec les pieds de faire du bruit.
D'expérimenter sans forcément avoir d'instrument de musique précieux.
Voilà. Déjà, je pense que l'organisation du bruit, c'est le premier départ de la musique. Le premier désir de musique, c'est d'organiser des bruits.
Et avec ce qu'on a.
Avec ce qu'on a, voilà. Si on n'a que des pieds, une bouche, un verre sur la table, allez, on essaye. Et puis...
Comme avec ces verres de champagne où on passe le doigt autour et ça fait un petit bruit.
Absolument. Je vous rappelle que on ne dit pas travailler la musique, on dit jouer la musique.
C'est vrai.
Donc jouer la musique implique quand même un grand plaisir.
Bien sûr.
Il faut que le plaisir soit tout le temps, il soit permanent, il soit là, et donc on joue. Voilà.
D'ailleurs, il y a une petite fille qui le dit. Elle le disait tout à l'heure. Si on fait la musique sous la corvée, on n'y arrivera jamais.
Absolument. Et je trouve que les petites filles, d'ailleurs, tout à l'heure, répondaient quasiment à toutes les questions. Et c'était vraiment très très bien. On entendait absolument toutes les interrogations et en même temps les réponses qu'on se pose par rapport à la musique. Voilà. Donc le premier apprentissage, c'est donc un apprentissage, je pense. Physique, tactile, du corps.
Du quotidien.
Ouais, du quotidien et du corps. Et je pense que ça, c'est la première chose à penser. Et également pour les parents, quand ils amènent des enfants dans des conservatoires, dans des écoles de musique, ben, de les laisser découvrir l'instrument qui leur plaît. Parce que je pense qu'on est tous faits pour un instrument de musique. On a tous un instrument de musique à soi. Et c'est pas le même que son frangin et c'est pas le même que les parents.
Et c'est vrai qu'on a peut-être des fois des papas ou des mamans qui regrettent bien de ne pas avoir fait du piano quand ils étaient petits et qui veulent absolument que leur propre petit fasse du piano, par exemple.
Et oui, parce qu'après vient se regreffer d'autres notions qui sont plus sociales et qui fait que le piano est considéré actuellement comme l'instrument roi parce qu'il maîtrise en même temps l'harmonie, la rythmique, la mélodie. On est un peu chef d'orchestre tout seul avec le piano, donc voilà. Et puis c'était aussi le symbole de la bourgeoisie du 19e qui s'est un peu prolongé jusqu'à
jusqu'à pour ça.
Voilà. Et puis voilà, mais après, et les enfants souvent jusqu'à 4-5 ans ils ont des goûts bien précis pour la musique. Quand on joue la musique, il y a des enfants qui vont regarder que la guitare, l'autre qu'un saxophoniste ou un clarinettiste, d'autres que la batterie. Donc je pense qu'il y a déjà un choix naturel qui risque d'être un peu perturbé après par les parents qui vont avoir envie que leur enfant joue d'un instrument qui n'est pas obligatoirement celui qu'eux voudraient. Donc je pense que la deuxième chose par rapport aux parents, c'est de bien écouter ce que l'enfant peut avoir envie de faire.
Oui, puis on voit des enfants qui ont plus envie de taper, peut-être d'autres plus de souffler, d'autres plus de chanter.
Oui, tout à fait. Et ça, je trouve que c'est très important de les écouter. C'est très important aussi, donc, puisque vous parlez de chanter, que dans les familles, on chante. Parce que c'est vrai que les enfants auront d'autant plus de facilité de chanter si on chante autour d'eux. Si on écoute de la musique autour d'eux, ils vont avoir une culture, entre guillemets, enfin une connaissance de la musique qui va se développer beaucoup plus que les enfants qui n'entendront jamais de musique.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un quotidien, c'est-à-dire que ça accompagne nos vies, comme on pourrait manger, boire, dormir,
voilà.
Et non pas une discipline à part entière extérieure à soi.
Non, c'est la vie au quotidien. Il y a des pays où on danse beaucoup, on chante beaucoup, il y a des pays où on chante moins, on est plus austère, mais on chante des comptines le soir aux enfants quand même. Enfin, je pense qu'il y a vraiment il y a comme ça, je pensais justement à un petit souvenir que j'ai, un enfant qui revenait du Brésil, qui avait été adopté, qui était en France, et quand il est arrivé en France, il avait 5 ans, et dans l'école où il était, il parlait pas du tout le français, et le lendemain, toute la classe dansait la samba. Parce que lui, dans son orphelinat, au Brésil, on danse, on chante, la musique est absolument partout. Et lui, quand il est arrivé en France, il savait pas compter ni rien, mais il savait danser.
Donc la cour de récré était devenue une scène de samba, quoi.
Voilà. Voilà, et je pense que voilà, la musique c'est ça d'abord. Alors après l'apprentissage, il y a plein d'apprentissages possibles, parce qu'il y a plein de musiques possibles aussi. Il y a des musiques multiples et variées dans le monde qui sont très différentes, qui se jouent avec des instruments très très différents les uns des autres et qui s'apprennent de fait très différemment. Il y a une partie du monde actuel qui n'apprend que par mémorisation de la musique. On l'apprend de père en fils, on l'apprend de...
Chez les tziganes, par exemple,
non ? Chez les tziganes, pareil dans la musique indienne, par exemple, en Inde, où la musique est beaucoup plus sophistiquée, elle est quand même mémorisée, elle n'est pas du tout écrite. Ou bien les griots africains, ils se la transmettent comme ça,
de
père en fils, de génération en génération. Donc l'apprentissage, c'est la mémoire, il n'y a pas d'écriture. L'écriture est arrivée finalement très récemment, elle est arrivée depuis 2-3 siècles en Europe et depuis 50 ans dans le monde entier. Mais on n'est pas obligé du tout d'écrire de la musique ou de lire de la musique pour jouer de la musique.
Ah, c'est pas une donnée fondamentale finalement.
Moi, je ne crois pas. Par contre, en Occident, ça vient une donnée fondamentale dans la mesure où tout le monde qui joue de la musique connaît ce langage, donc c'est bien de le connaître.
Oui,
Mais on n'est pas obligé. Je pense qu'on peut très bien jouer de la musique sans du tout savoir ce que c'est qu'un do, un fa, un sol un rythme quelconque. Hein.
Mais est-ce que pour autant apprendre la musique, c'est quand même pas à un moment donné un effort à fournir malgré tout ?
Ce sera un effort de toutes les manières, que ce soit en musique à lire sur les partitions ou bien une musique à mémoriser, ce sera un effort. On ne peut pas échapper à cet effort, mais qui est une récompense aussi.
Oui, c'est pas un effort vain dans tous les cas, puisque jouer un morceau, c'est tellement fabuleux.
Voilà, c'est ça. C'est que c'est pas... Enfin, je pense que dans la mesure où on a envie de faire de la musique, ou qu'à un moment donné, on a envie avec... on est un peu là-dedans, on commence à sentir qu'il y a des choses qui pourraient se dire, qu'on pourrait dire avec la musique. La musique, c'est aussi un sacré confident, hein, quand on est à soi-même, sans même en faire un spectacle, sans même en faire un métier. On va bien, on va pas bien, on prend son instrument de musique et on va se calmer avec.
Hein. Oui, une enfant le disait tout à l'heure, hein, ça parle des émotions, des sensations, des émotions.
C'est une prise directe, hein, c'est une prise directe avec les émotions. Donc je pense qu'on peut apprendre, la musique donc de plein de manières différentes. Et la première méthode, c'est que il faut passer par un travail un peu fastidieux qui va être des gammes ou simplement de tourner en boucle un petit truc qu'on voudrait arriver à chanter ou à jouer qu'on n'y arrive pas parce que les doigts ils suivent pas ou parce que on chante pas très juste à ce moment-là, alors on le refait 2-3 fois. C'est ça en fait, hein, simplement on le refait 2-3 fois, puis plus si nécessaire, mais c'est pas plus compliqué, hein.
Donc si la musique est un jeu, il y a quand même, vous dites, des règles du jeu.
Voilà, alors il y a effectivement des règles du jeu. Quand on joue dans un cours de récréation, qu'on décide de faire une balle aux prisonniers, il y a une règle du jeu qui s'impose. On est obligé de donner une règle du jeu, sinon on ne joue plus à la balle aux prisonniers.
Tout à fait.
Et d'un instant, on va se retrouver dans une cour avec d'autres enfants qui sont musiciens et on se dit on va jouer vers la musique ensemble. Eh bien, il va falloir qu'on se donne des règles du jeu.
Alors, lesquelles ?
Alors, eh bien, il y en a plein. C'est pareil, ça dépend un peu des cultures, ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire. On peut se donner des signes, on se fait des grands signes en l'air, on se dit quand je lève le bras, tu fais ci, quand toi tu fais. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, donc ça, on se le définit, on prend un groupe de 3-4 copains, puis on se dit, ben toi, tu as le droit de faire ça, moi, je fais ci, moi, je fais ça, bon. Puis après, on peut rendre les choses un peu plus compliquées, un peu plus sophistiquées. Et puis, ben, à ce moment-là, si on est en Europe, en tout cas en Occident, on arrive au solfège. Parce que le solfège, c'est ça, finalement. C'est à un moment donné une codification qui permet de jouer à plusieurs ensemble. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que jouer à un ou deux, sans partition, c'est aucun problème.
Mm-hmm.
Jouer à 3, 4 sans partition, on y arrive encore.
Mais plus ?
Mais quand on commence à être à 7, 8, 9, 10 et qu'on veut jouer ensemble quelque chose, là, ça devient beaucoup plus compliqué de ne pas avoir et une partition et peut-être quelqu'un même qui va un peu dire...
Un chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre qui va un peu guider les gens. Voilà, donc après... Ben après, quand on est content de souffler, moi je dis ça parce que je suis souffleur, quand on est content de souffler, qu'on a trouvé des copains avec qui on va souffler, ou on va faire la musique ensemble, l'un va gratter, l'autre va souffler, l'autre va taper sur quelque chose. Quand on a tout ça, après le solfège c'est plus difficile, c'est pas très difficile à apprendre. Puisque finalement, c'est un moyen d'arriver à quelque chose, c'est pas une fin en soi.
C'est un outil.
C'est un outil. Et un outil, dès l'instant qu'on a besoin d'un outil pour enfoncer un clou dans un mur, on est sacrément content de trouver le marteau.
De l'avoir, tout à fait.
Donc ça devient plus compliqué. Et c'est là, je pense que souvent, actuellement, il y a des erreurs au niveau des conservatoires et d'autres formes d'éducation. C'est qu'on inverse.
On met l'outil avant le résultat.
C'est-à-dire qu'on apprend à écrire,
le plaisir.
On apprend à écrire avant d'apprendre à parler.
Mm-hmm.
Ce qui est absolument aberrant dans l'enseignement. On apprend d'abord à parler, puis après, ben on écrit.
Bien sûr.
On ne fait pas l'inverse. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Et la musique, c'est pareil, je pense. Donc, si on apprend d'abord à
prendre plaisir, à découvrir,
plaisir,
à expérimenter.
Voilà. À jouer à plusieurs, à être content d'être ensemble, à avoir des challenges aussi, c'est-à-dire des occasions de jouer ensemble, des occasions de faire écouter ce qu'on fait à d'autres gens. Donc, à ce moment-là... À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Il y a qu'à voir les adolescents comme ils apprennent très très vite, alors que pendant l'enfance, ils se traînent souvent dans les bancs de conservatoire. Parce qu'à l'adolescence, le but, c'est de monter le groupe.
Bien sûr.
Donc, dans l'instant qu'on monte un groupe, là, il y a vraiment...
Il y a un enjeu.
Il y a des enjeux. Il y a les copines ou les copains qui viennent vous voir. Il y a des raisons de jouer pour tel et tel événement, fête de musique et autres. Et tout d'un coup, le solfège, il rentre, mais sans douleur.
Comme par miracle.
Voilà. Donc je pense que voilà, c'est la musique s'apprend, mais ça peut être fastidieux, mais c'est pas obligatoirement désagréable.
Alors justement, vous parliez des adolescents, des jeunes. Alors moi, j'en viens à une question. Y aurait-il des musiques moins bien que d'autres ?
Alors pour moi, non. Toutes les musiques sont bonnes.
Vraiment, sont valables.
Ah, absolument toutes. Il n'y en a pas de mauvaises. Vraiment aucune. D'abord parce que il y a une énorme quantité de musique qui ont été construites par des hommes dans le monde entier à des époques différentes et qui se valent tout à fait. Pour chacun des groupes qui les jouaient, c'était la plus belle musique du monde. Et donc, ça reste la plus belle musique du monde. Après, il y a des musiques plus savantes, moins savantes. Il y avait une anecdote que j'avais entendue, que j'aimais beaucoup plus, c'était... des musicologues qui avaient réuni des gens de différents pays, puis ils avaient demandé à un moment donné à un Africain qu'est-ce qu'il pensait de la 9e de Beethoven, et l'Africain avait répondu c'est bien, mais au niveau rythmique c'est pas terrible. Et je trouvais que c'était absolument génial, parce que lui, dans sa culture où il y a une polyrythmique absolument extraordinaire en Afrique,
incroyable.
Pour lui, la 9e de Beethoven, c'est une succession de sons, de notes, d'harmonie dont il ne connaît pas obligatoirement l'intérêt, puisque pour lui, le centre important de la musique n'est pas là-dedans, elle est dans la rythmique. Voilà. Donc je pense que toutes les musiques sont bonnes, et parce qu'on a tous On a besoin de cette musique socialement, avec les gens avec qui on est, et c'est cette musique-là qu'on a envie de fabriquer ensemble.
Et puis en fonction de son intimité, chaque musique peut nous parvenir de manière différente et nous toucher différemment.
Voilà. Et puis en plus, c'est pas toujours au même moment de la journée, au même moment de... Voilà, c'est bien qu'il y ait plein de musique comme ça, en fonction de nos humeurs, on peut changer un peu de musique.
C'est vrai que le matin, on a besoin de musique entraînante, et puis le soir, on a plutôt envie de comptine.
Par exemple, on peut trouver aussi des musiques adaptées un peu plus à ce qu'on a envie. On peut choisir maintenant. Mais je pense que malgré tout, on peut choisir parce qu'on a un grand panel de musique à notre disposition. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la plus belle des musiques, c'est quand même celle qu'on fabrique ensemble, à plusieurs. C'est-à-dire que, enfin, je dis ça par rapport à cette notion de consommation qu'on peut avoir, aller butiner ou consommer des musiques à droite à gauche. Mmh. Et finalement, ce qui est important, c'est de la fabriquer ensemble, la musique.
C'est la créer.
C'est la créer ensemble, quoi.
Donc finalement, la musique, si je vous comprends bien petit à petit, ça vous colle à la peau, c'est comme les poux ou les puces, ça vous attrape, ça vous accroche, ça vous agrippe et ça vous démange.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'aurais pu, c'est héréditaire, être officier d'état-major, archevêque ou vétérinaire, clerc de notaire ou chercheur d'or. Le hasard et la génétique en ont voulu tout autrement. J'ai mis les doigts dans la musique, et c'est ainsi qu'à présent. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui mais côté référence. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça fait du bien dans les phalanges, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. J'ai la guitare qui me démange, alors j'écris des chansons. J'ai appris à lire, à écrire, et je compte sur mes 10 doigts pour composer de doux délires à partir de n'importe quoi. Ne croyez pas que je m'amuse, que je cours après les honneurs. Si je taquine un peu la muse, c'est pas pour les droits d'auteur. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais au bout d'une heure ou deux. Quand je me prends pour un artiste, ça donne un résultat miteux. Ça me rend profondément triste, et quand je suis malheureux. La guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage, ça s'arrange, mais c'est un cercle vicieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire à cette idée. J'ai la guitare qui me démange, alors j'essaie de chanter. J'ai consulté un spécialiste pour me guérir, mais sans succès. Il m'a dit, si le mal persiste, essayez de prendre un cachet. Avant même que je le comprenne, j'étais déjà devenu chanteur. Et c'est pour ça que sur la scène, entre les deux projecteurs, j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et si c'est pas très sérieux. C'est la plus belle leçon de musique que j'ai reçue depuis toujours. C'est la meilleure thérapeutique quand j'ai des chagrins d'amour. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et quand je serai très vieux, à ma mort je veux qu'on m'installe avec ma guitare à la main. Si vous voyez ma pierre tombale qui gigote à la Toussaint. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Dans les nuages avec les anges et tout là-haut dans les cieux. Pardonnez-moi si ça dérange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Y'a rien à faire pour que ça change, ici dans un jour ou deux. Y'a la guitare qui vous démange, alors c'était contagieux.
Ah, je vous y prends à fredonner la jolie mélodie de Monsieur Yves Dutheil. D'ailleurs, cela ne vous est jamais arrivé à vous de chanter à tue-tête en même temps que votre disque préféré en passant le balai dans une danse endiablée? Et là, soudain, votre voisin ouvre la porte. Et d'un coup, on se sent bien bête. La honte, on se dit, la honte! Oh, et puis zut, c'est trop beau la vie à tue-tête après tout. La preuve avec Flora, chanteuse d'opéra. Une histoire écrite par Agnès Bertrand. Il était une fois une petite fille blonde et frisée comme un mouton qui s'appelait Flora, Flora enfant. Du matin au soir et du soir au matin, elle chantait comme un pinson. Sa voix était si harmonieuse, si claire et envoûtante que ses parents, ses amis et même le boulanger, tous les gens qui l'entendaient étaient bouleversés. Et il restait là, sans bouger, à l'écouter. Un jour, Flora dit à ses parents: je suis grande maintenant et je veux devenir chanteuse d'opéra. » Ses parents trouvent que c'est une très bonne idée, ses amis, le boulanger et tous les gens aussi. Alors Flora prend ses affaires, elle embrasse ses parents et elle part vivre dans une très grande ville. Elle travaille énormément avec un professeur de chant. Elle apprend à faire avec sa voix des vocalises et des roulades qui n'en finissent pas. Elle s'entraîne du matin au soir. Elle est si absorbée par ses exercices et ses airs d'opéra que sa baignoire déborde quelquefois et que Flora mange de la soupe brûlée avec ses souliers à l'envers. Mais ça lui est bien égal, car ce que veut Flora, du soir au matin, c'est devenir chanteuse d'opéra. Un jour, le directeur du grand opéra Tralala lui téléphone.
« Allô, ici le directeur de l'opéra Tralala. Je voudrais entendre votre voix, vos roulades et vos vocalises, car je cherche une chanteuse d'opéra. »
Quand il entend la voix de Flora, le directeur est bouleversé. Il s'exclame
« Oh, oh, vous êtes engagée !»
Et Flora devient chanteuse d'opéra à l'opéra Tralala. Des centaines de gens viennent tous les soirs écouter Flora, chanteuse d'opéra. Quand elle a fini de chanter, tous les gens disent « Oh, ah !» et ils applaudissent de toute leur force. Alors Flora salue son public et elle est tout à fait heureuse quand elle retourne dans sa loge. Un soir, derrière un bouquet de fleurs gigantesques, il y a un monsieur qui sourit. Il dit « Bonsoir, je suis Hugo, danseur de tango. J'aime beaucoup votre voix. » Et Hugo revient chaque soir pendant des mois, toujours avec des fleurs dans les bras. Et chaque soir dans la loge, il danse le tango pour Flora, chanteuse d'opéra. Flora le trouve si drôle et si gentil que le jour où il lui demande « Flora, voulez-vous vous marier avec moi ?» Flora chante de sa plus jolie voix. « Oh oui, oui !» Flora et Hugo se marient et bientôt Flora met au monde une première petite fille, puis une deuxième petite fille et l'année suivante une troisième petite fille. Elles s'appellent Flore, Huguette et Florine et toutes les trois, elles sont blondes et frisées comme des moutons. Flora est devenue Flora Maman. Elle chante du matin au soir en serrant ses petites filles dans ses bras. Elle chante en leur donnant le bain, elle chante en préparant le dîner et en les habillant, elle chante du soir au matin. Mais Flora est si absorbée par ses vocalises qu'elle oublie d'arrêter l'eau du bain, que les frites sont toutes brûlées et qu'en habillant ses trois petites filles, elle leur met leurs chaussures à l'envers. Alors à chaque fois, Hugo Papa est obligé de danser pour faire oublier tout ça. Un jour, Flora Maman prend ses trois petites filles dans ses bras et elle leur dit « Mes chéris, mes amours, c'est fini, c'est promis. Plus de chansons, plus de vocalises à la maison. Les frites seront dorées, le bain juste bien et vos chaussures bien enfilées, une sur chaque pied. » Flora Maman est devenue une maman parfaite. Elle n'oublie rien, elle ne se trompe jamais. Mais elle est si occupée avec les bains, les frites, les trois paires de souliers qu'il ne faut pas mélanger et tout le reste, qu'elle n'a plus le temps de s'exercer à chanter. Un soir, à l'opéra Tralala, Flora est sur scène et des centaines de gens sont là pour l'écouter. Mais quand elle veut chanter un air très compliqué, catastrophe, elle a tout oublié. Elle essaye quelques vocalises, deux ou trois roulades, mais sa voix reste coincée. Alors les gens se mettent à siffler, le directeur de l'opéra se met à crier et Flora se sauve sous les huées. Quand elle arrive chez elle, elle est effondrée. Elle dit à Hugo « J'ai tout oublié. Je ne suis plus Flora, chanteuse d'opéra. Je suis devenue Flora robot à arrêter le bain, à surveiller les frites, à compter les souliers. » Et elle se met à pleurer. Les trois petites filles ont tout entendu. Flore dit doucement « Maman, tu étais trop occupée. Tu n'as pas remarqué. On a grandi, regarde. » Et les trois petites filles se mettent en ligne les unes à côté des autres. Huguette explique « Moi, je ne me trompe jamais pour reconnaître les pieds gauche ou droit. » Et Florine déclare « Et moi, je peux très bien arrêter l'eau du bain. » Flore propose « Moi, j'aimerais bien essayer quelques recettes de gâteaux à la place des frites. » les petites filles frisées comme des moutons. Quand ça grandit, c'est fou ce que ça sait faire. Flora n'en revient pas. Maintenant, elle a du temps pour répéter des airs d'opéra très compliqués. Elle fait tant de vocalises et de roulades qu'un jour le directeur de l'opéra Tralala lui dit « Puisque vous avez retrouvé votre voix, vous pouvez recommencer à chanter dès ce soir à l'opéra. » Flore, Huguette et Florine sont ravies. Leur maman chante toute la journée les plus beaux airs d'opéra rien que pour elle. Et le soir, quand Flora va faire son spectacle, elle danse le tango avec leur papa. Quelquefois, quand il n'y a pas d'école le lendemain, il y a trois petites filles frisées comme des moutons, assises à côté de leur papa, au premier rang de la grande salle de l'opéra Tralala. À la fin du spectacle, quand tout le monde applaudit et fait « Oh, ah !» elle crie « Bravo, maman chanteuse d'opéra !» Voilà, c'était Flora chanteuse d'opéra, une histoire écrite par Agnès Bertrand aux belles histoires de Pomme d'Api. Alors si vous aussi vous rêvez de l'opéra Tralala ou de concerts Tralalaire, que vous rivalisez avec les rossignols du coin, grattez vos cordes vocales dès le matin, tapez sur vos joues, sur vos cuisses ou sur vos mains, soufflez dans les bouteilles ou sifflez par les oreilles, n'hésitez plus, prenez le train de la musique, gare Montplaisir, quai des Gammes, rame des Diapasons, wagon des Fanfarons. Mais attention, pas de place assise, pas de portable et pas d'ordinateur, juste un ticket nommé du baume au cœur. Bon voyage. Voilà, c'était Philippe Blin, musicien, Sylvère Petit au montage son, Raphaël Terribilé aujourd'hui derrière la console, et moi-même, Donatienne Rank. Et n'oubliez pas que les émissions sont réécoutables à la carte quand vous voulez, où vous souhaitez, sur www.lesartsbuissonniers.com. www.lesartsbuissonniers.com avec deux S et deux N. Allez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.